Bien sûr, bien sûr. N'allez pas vous empoisonner comme ce pauvre Nogaret. Pardon ? Demanda Andreas les yeux écarquillés. Vous n'êtes pas au courant. Andreas, le front soucieux, fit non de la tête. Le chancelier est mort. On murmure qu'il a été empoisonné. Empoisonné ? Il paraît qu'il était malade, balbutia le Parisien en regrettant aussitôt cette stupide intervention. Bah. L'homme comptait tellement d'ennemis que la thèse de l'empoisonnement semble plus probable, vous ne pensez pas ? Sans doute, sans doute. Andreas paya, peinant à masquer son trouble, et s'en retourna au plus vite vers l'hôpital Saint-Antoine. La nouvelle de la mort de Nogaret était des plus préoccupantes car il y avait fort à parier que si la thèse de l'empoisonnement était privilégiée, l'apothicaire ferait partie des principaux suspects. Une charge supplémentaire dont il se fût passé volontiers. En outre, il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Nogaret avait prétendu savoir des origines d'Andreas. Le nom de sa mère. Si le chancelier avait dit vrai, ce secret venait peut-être de disparaître avec lui. L'apothicaire serra les poings et chassa ses pensées hors de son esprit. Mais alors qu'il approchait de l'hôpital, il dut s'arrêter brusquement et se précipiter dans une ruelle adjacente où il se dissimula derrière un auvent. Devant lui passèrent deux grands chevaux, l'un blanc et l'autre brun, et sur ces chevaux, il reconnut les deux hommes qui étaient entrés le matin de sa fuite dans l'abbaye Saint-Magloire. Entièrement vêtus de noir, ils portaient sous leur manteau un pourpoint à col haut et à la ceinture une large épée de chevalier. Leur visage était plongé dans l'ombre d'une ample capuche qui leur faisait un aspect véritablement inquiétant. Le cœur battant, Andreas attendit que les deux hommes se fussent éloignés, puis il retourna dans la rue et se pressa vers l'hôpital, grimpa à l'étage et réveilla promptement Robin et Magdala. « Dépêchez-vous, nous devons fuir, ils sont sur nos traces. »« Qui donc ?» demanda l'apprenti perplexe. « Les gens du roi, déjà ?»« Je ne suis pas sûr, peut-être. Deux hommes à cheval. » Quelques instants plus tard, Besace sur le dos et Bourdon sur le bras, tous trois quittaient la chambre dans l'urgence. Sans même prendre de repas, ils payèrent le prêtre, le saluèrent et partirent au dehors dans la direction opposée à celle des deux mystérieux cavaliers, c'est-à-dire qu'ils revinrent sur leurs pas de la veille. Tête baissée, il descendait la grande rue d'un pas preste, quand soudain Andreas entendit des bruits de sabots résonner dans leur dos. Il tourna discrètement la tête et blêmit en reconnaissant par-delà la foule les deux cavaliers qui avançaient vers eux fouillant la multitude du regard. « Ce sont eux !» s'exclama-t-il livide, au moment même où les deux hommes mettaient leur cheval au galop. « Ils nous ont repérés, vite !» Il poussa Magdala et Robin devant lui et ils se précipitèrent vers le bas de la rue. « Andreas ! « Ce sont les deux lascars qui ont mis le feu à ta maison !» affirma la ponente tout en le précédant. Puis elle se jeta à ses nestres et fit signe à ses compagnons de la suivre dans la ruelle où travaillaient les prostituées des tempes. Ils coururent tous les trois au milieu des badauds et des fillettes. Et Andreas estima que l'affluence empêcherait les chevaux de galoper. Mais il se trompait. Les deux cavaliers, opiniâtres, venaient de se lancer dans la ruelle et leurs montures renversaient sans vergogne les gens sur leur passage. Des cris d'horreur s'élevèrent entre les façades des maisons. Des étals s'effondrèrent, et bientôt la panique gagna le quartier tout entier, à mesure que s'approchaient les deux sinistres chevaliers. « En face !» s'écria une voix sur leur passage. Isia, la mère du quartier, que nous retrouvons ici pour la deuxième fois et dont nous aurons l'occasion de reparler beaucoup plus tard dans notre récit, car elle y est bien plus fortement impliquée qu'on ne pourrait le croire, la mère du quartier, disons-nous, s'était levé de son tabouret et leur désigna de l'autre côté de la rue une venelle si étroite que cette fois, certainement, les chevaux ne pourraient s'y engager. Robin y fut en quelques foulées, et Andreas et Magdala suivirent le jeune apprenti au pas de course. Ils n'étaient plus qu'à quelques pas du passage quand l'apothicaire entendit juste derrière eux, au milieu des claquements de sabots, le bruit aigu d'une épée que l'on dégainait de son fourreau, et ce bruit lui glaça le sang. Andreas tendit la main à Magdala pour l'aider à aller plus vite. Mais à ce même moment, le premier des deux cavaliers se jeta sur eux, son épée dressée au-dessus de lui. L'instant d'après, la lame étincelante s'abattit sur l'apothicaire. Mais avant que celui-ci ne fût touché, la ponente s'était mise en travers et reçut à sa place le fil de l'arme en pleine épaule. Le métal s'enfonça dans la peau, déchirant la chair et tranchant une artère carotide qui projeta dans l'air une grande gerbe de sang.